Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à la table des dialogues, consacrée aujourd'hui à une émission sur la peinture et la philosophie. Notre émission s'intitule « À l'écoute de Rothko et Maître Eckhart, remontée vers l'empreinte incréée ». Un titre bien sibyllin, chers auditeurs, qui semble ne pouvoir parler qu'à des initiés, et que nous allons élucider avec nos deux invités, Grégoire Aslanov, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, et Isabelle Raviulio, qui est d'ordinaire notre animatrice, et aujourd'hui sur le fauteuil des invités, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux aujourd'hui pour parler de votre travail, Isabelle, un livre que vous avez fait paraître aux éditions de l'Harmattan dans la petite collection Ouverture philosophique qui s'intitule « Vers l'empreinte incréée », un livre consacré donc au dialogue de la peinture de Rothko et de la philosophie de Maître Eckhart, penseur de la philosophie médiévale, mystique rhénan dont vous allez nous parler, et qui va permettre aussi de présenter l'exposition qui a commencé le 19 octobre à la Fondation
Vuitton.
Et qui durera donc jusqu'à début avril. Donc cette exposition qui a commencé donc avant-hier est l'occasion de cette rencontre qui peut sembler incongrue pour nous, pour vous, auditeurs, du moins étonnante, pour aborder un artiste de la pleine modernité, donc une philosophe, Isabelle, et vous, Grégoire, historien de l'art. Vous êtes documentaliste au Centre André Chastel, ingénieur au CNRS. Vous êtes aussi professeur d'iconologie et d'art chrétien à l'Institut Saint-Serge. Vous allez donc nous parler de votre connaissance de la peinture d'icônes, mais aussi d'histoire de l'art en général. Et vous avez cette chance, comme moi, d'avoir vu l'exposition et de l'avoir en très fraîche mémoire. Donc, ça va vous donner envie, chers auditeurs, chères auditrices, de prendre le temps d'aller à la Fondation Vuitton. Et vous, Isabelle, nous vous connaissons, les auditeurs, les auditrices vous connaissent très bien. Vous êtes un personnage hors du commun, poète, peintre, enseignante en philosophie à l'université et au lycée. Il est vraiment difficile de classer, de hiérarchiser vos pratiques, vos engagements, vos champs de curiosité. Vous avez créé une revue de philosophie intitulée Thomas, qui est consacrée au dialogue de la philosophie et de la poésie. Et donc, vous publiez cette étude vers l'empreinte incréée, qui est vraiment un bijou pour moi, qui ai une connaissance assez pauvre, pour ainsi dire inexistante, de la philosophie médiévale et de Maître Eckhart. Et finalement, qui connaissait très peu, qui avait une très petite pratique de la peinture de Rothko. Donc, c'est une étude très synthétique et dont le style est très fulgurant. Et nous allons vous donner l'occasion, peut-être, de lire une partie de cette étude. Pour présenter brièvement la collection, qui est déjà très fournie, cette ouverture philosophique. Donc, elle est dirigée par Jean-Marc Lachaud, qui est professeur de philosophie de l'art et d'esthétique à Paris 1, et Bruno Péquignot, qui est professeur de sociologie des arts à la Sorbonne Nouvelle. Elle propose donc de sortir la philosophie de son seul champ académique et d'offrir des confrontations, des analyses en esthétique et en philosophie de l'art. Ces tout petits livres ouvrent des recherches et des réflexions synthétiques que mènent régulièrement des philosophes et des penseurs des sciences humaines à partir de leur propre domaine de recherche et en dialogue avec leurs expériences sensibles et esthétiques. Ce livre, donc, Isabelle, est à la lisière de l'histoire de l'art et de l'histoire de la philosophie. Et je rappelle pour nos auditeurs que vous avez passé une longue période de votre vie à travailler sur la philosophie d'Eckhart, puisque c'est votre sujet de thèse, l'incréé chez Eckhart. Aujourd'hui, nous allons parler de très peu d'œuvres de Rothko. Pour une raison très simple, c'est que nous voudrions vous inviter, chers auditeurs, à vous installer dans cette peinture et de pratiquer un exercice et même une discipline lors de votre visite, qui serait la concentration sur quelques œuvres pour risquer une véritable immersion dans cette peinture. Renoncez donc au trop, à la profusion, à la dispersion et à l'absence de concentration sur un objet. Ce que vous appelez, Isabelle, dans votre livre, la plongée dans l'abîme, le désert de la représentation et le consentement à la perte du sens. Une deuxième recommandation, chers auditeurs, puisque Grégoire Aslanov a eu la chance de visiter l'exposition, certainement avec des happy few, c'est-à-dire quelques historiens de l'art, c'est-à-dire avec assez peu de monde, et ce n'est pas le cas, bien sûr, lorsqu'on y va, comme moi, par exemple. Hein, donc, pour éviter ce qui se produit, hélas, dans beaucoup d'expositions parisiennes à franc succès, pour éviter ce choc entre ceux qui veulent contempler et ceux qui veulent simplement prendre des photographies et y être, hein, peut-être une autre recommandation consisterait à se priver de son téléphone, hein, le temps de cette exposition, et de ne pas chercher à emprisonner une image de ce qu'est cette expérience de la peinture de Rothko, qui consiste à emporter en soi, intérieurement, scrupuleusement, une expérience d'adaptation de l'œil à la lumière, à des contrastes, à prendre acte aussi d'un mouvement qu'on ressent dans l'exposition. Peut-être, Grégoire, vous nous en parlerez dans le cours de l'émission. Donc, pour revenir tout de même au sens de cette rencontre aujourd'hui, et puis vous remercier vraiment tous les deux, parce que ce n'est pas facile d'accepter d'échanger des compétences. Grégoire, vous êtes plutôt amateur des arts visuels et vous nous dites que vous n'entendez rien ou pas grand-chose au concept. Et Isabelle, plutôt déterminée par la précision du concept aussi. J'aimerais revenir sur la raison précise de cette rencontre. C'est le fait que vous peignez tous les deux des icônes et donc que vous êtes attachés à la figure, comme Rothko du reste, qui disait qu'il n'était pas un peintre de paysage mais un peintre de la figure. Et pourquoi ? Parce qu'il revendiquait la peinture du visage et de la figure humaine, cette figure humiliée, bafoué, mutilé, comme le dit l'exergue de l'exposition, et qui invite précisément à une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est nôtre. Pourquoi, Isabelle ?
Elle est nôtre déjà eu égard au prochain, à tout homme, à toute femme. Et ce prochain, l'actualité nous le rappelle, n'a pas de frontières géographique, il est cet homme, ce frère, cette sœur en humanité qui nous appelle à nous relier à lui. Alors qu'est-ce que j'entends par ce verbe relier ? J'entends justement une couleur telle que Marc Rothko pouvait l'expérimenter. Une lumière qui nous dépasse et qui, dans ce champ de dévastation que peut être le monde à certains endroits du monde, nous rappelle l'espérance quand la réalité pourrait nous faire désespérer. Et je pense que dans la vie, la biographie de Rothko, mais aussi dans ses œuvres, il y a toujours eu cette agone, comme les Grecs le disent, agone qui a donné agonie. Le mystère de l'agonie du Christ, on parlait des icônes, et ce mystère de l'agonie, c'est le mystère d'un combat intérieur qui appelle à ne pas se résigner dans l'indifférence généralisée, dans cette espèce de norme à l'indifférence, justement. Ce que nous rappelle la peinture de Rothko, c'est une vigile intérieure. Relier sa pensée à celle d'autrui, ce n'est pas seulement une petite pensée d'une minute, saupoudrée dans notre quotidien affairé, mais c'est une vraie connexion intime, une connexion charnelle. Et je crois que la peinture de Rothko est profondément charnelle. Mais j'éclairerai ce mot tout à l'heure.
Oui, merci beaucoup. Et précisément pour accéder à cette expérience sensible, unique et toute personnelle que vous avez chacun avec la peinture de Rothko, nous allons vous faire entendre, chers auditeurs, une musique qui est une chanson d'une artiste folk américaine, Judy Seal. There is a rugged road, et qui va nous amener, j'espère, sur le chemin d'une meilleure compréhension d'un texte d'Isabelle consacré à une peinture de Rothko. On écoute Judy Seal.
There is a rugged road. Stretching all across the last frontier, there's stranger strife, solitary. Blessed is the lonesome pioneer. Roll on, roll on, roll on. Night birds are flying. Come on, the light is gone. Hope slowly dying. Tell me how you. Still surveying the miles yet to run on a long and lonely road to kingdom come. He can blaze the trail, though the rumbling dims his guiding light to just a spark. When the hour is low, but when the moon is high, he gives his heart. Roll on, roll on, roll on. Night birds are flying. Come on, the light is gone. Hope slowly dying. Tell me how you come riding through, gaining the steady till this round is won on a long and lonely road to King. Offer him directions on the run. Prophets on the path offer treasures. Though he's mighty hungry, he takes none. Roll on, roll on, roll on. Night birds are flying. Come on, the light is gone. Hope slowly dying. Tell me how you. But following none on a long and lonely road to kingdom come. When the sun goes down at the right time, he comes a winding through the purple haze, just a feather's touch. Cover all my weary days, shining finer than this earthly sun on a ragged, rugged road to kingdom come. On a ragged, rugged road to kingdom come.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Thank you. C'est cette chanson qui est censée nous introduire à un passage de votre livre, Isabelle, le début du premier chapitre, qui s'intitule « L'intervalle asymétrique » et qui se propose d'étudier une toile de Rothko, « Dark Green Sun Blue with Green Band », dont on trouve plusieurs échos, plusieurs variations aussi dans l'exposition, plutôt des tableaux donc aux couleurs froides. Et ce que nous allons vous proposer, Isabelle et Grégoire, maintenant, c'est de raconter peut-être l'expérience toute personnelle que vous avez de votre rencontre avec la peinture de Rothko, ce en quoi elle constitue pour vous, ce que dit Rothko, une poche de silence et de contemplation pour grandir et pour s'enraciner, et ce en quoi, en outre, elle est fondée finalement sur une expérience très intime que chacun doit faire avec une contemplation longue effectivement d'une œuvre. Et Grégoire, on commence par vous.
Bien. Encore une fois, merci de m'avoir invité. Je me sens un petit peu comme il y a une expression serbe, comme dans le credo, la prière de le symbole de foi, comme le Pilate au sein de la Trinité. J'ai l'impression d'être un usurpateur. Mais je ne me souviens pas la première fois que j'ai vu un Rothko, mais je me souviens de la première fois que j'ai vu une rétrospective de Mark Rothko. C'était à la Tate Modern à Londres. En 2019, il me semble, et c'était pas tout à fait une rétrospective, c'était une exposition consacrée aux dernières œuvres de Rothko, donc dans les années 1969, et j'ai été absolument subjugué par des dessins qu'il a fait, parce qu'il était déjà très malade, et son médecin lui avait recommandé d'abandonner les grands formats. Et je sais pas si c'est pour cette raison, mais il y avait donc des dessins de Rothko, non figuratif évidemment, de la mine de plomb, donc du crayon noir, sur un papier noir. Des petites stries, des petits carrés minuscules. Et on voyait presque rien. Mais il fallait justement, là on comprend, un des messages de Rothko, c'est d'intégrer l'observateur ou le spectateur, je ne sais pas comment il faut dire, qu'il fasse l'effort de contempler, vous avez bien dit le mot, et là, on est dans la même intimité que devant des eaux-fortes de Rembrandt. Vous savez, parfois, c'est noir, tellement intense, dans lesquels on distingue à peine des formes. Mmh. Et on sait que Rothko c'était une de ses grandes références, Rembrandt, que ce soit pour la peinture que pour les arts graphiques. Donc voilà, j'étais extrêmement... il n'y a pas d'autre mot, ému. Et pas parce qu'on sait qu'il s'est suicidé après, c'est autre chose. C'est quelque chose de formel, d'intime. Et on est vraiment happé par ces minuscules formats, ce qui est complètement en contradiction avec les formats de Rothko, qui, on le sait, sont grands, mais dans lesquels on doit aussi s'immerger. Je crois qu'il recommandait de regarder ses peintures à 18 pouces, c'est-à-dire à environ 46 cm. Ça veut dire qu'on est... au plus près, au plus intime de ces grandes surfaces. Il ne faut pas les regarder forcément de loin. On peut aussi, bien sûr. Mais je crois que pour saisir la subtilité des touches, et on sent très bien que ce sont des couches de peinture successives, et ça nous rapproche d'ailleurs de l'icône. Je ne vais pas tout dire en même temps, mais c'est vrai que, notamment dans la tradition byzantine et russe, l'icône travaille par couches très fines, transparentes. On mélange peu les pigments pour justement atteindre une certaine transparence, non pas aquarellée, il y a de la consistance, mais en fait, si vous mélangez des pigments, ils vont devenir ternes. Et pour maintenir la luminosité, et ça c'est un terme que je pense qu'on reviendra là-dessus, fondamental pour Rothko. Rothko dit « Je ne suis pas un coloriste, je ne peins pas la couleur, je peins la lumière. »
Merci infiniment. Isabelle, à vous.
La première expérience que j'ai faite avec la peinture de Rothko, c'était au Centre Pompidou, il y a déjà de nombreuses années. Je me souviens, c'était une nocturne du Centre Pompidou, du musée d'art moderne. Et l'œuvre, l'unique œuvre du Centre Pompidou de Rothko est venue à moi. Je pense que ce n'est pas moi qui suis allé à elle, c'est elle qui est venue à moi. C'est de l'ordre d'une rencontre phénoménologique, diraient aujourd'hui les philosophes. C'est l'œuvre Untitled, sans titre. Et entre parenthèses, Rothko écrit « Black Red over Black on Red ». C'est vraiment l'expérience d'une immersion. D'une plongée, non pas d'une fusion, mais d'une rencontre au sens où cette rencontre vous surprend. Et la surprise de cette œuvre a été pour moi une déprise. Et allant vers moi, cette œuvre m'a rappelé tout ce que je portais en moi de Maître Eckhart. Et ce fut comme une illumination, une lumière qui est venue à moi et qui m'a fait comprendre ce que pouvait dire Maître Eckhart quand il parlait de l'au-delà de l'image. La condition de l'image chez Rothko, c'est la percée de l'image. Et percée est un terme écartien. Eckhart emploie dans ses sermons en moyenno-allemand, quand il commence à prêcher dans cette langue vernaculaire, à partir de 1313, quand il est en charge de la Cura Monialum, sur les rives du Rhin, à Strasbourg, il parle de cette percée comme d'une attention qui se déprend d'elle-même pour se laisser inhabiter. Et c'est très intéressant, cette manière d'être du mystique qui rejoint totalement l'acte de peindre de Rothko comme l'acte de voir du spectateur, si je peux l'appeler ainsi, de tout homme, de toute femme qui se laisse rencontrer. Moi, j'aime beaucoup employer cette forme passive, Christine, parce que c'est en elle que l'on peut comprendre qu'il y a vraiment, pour nos contemporains, l'exigence, la discipline, vous disiez tout à l'heure, de ne plus vouloir faire, mais de se défaire. C'est le sens de la déprise qui laisse passer en nous le phénomène du voir. Alors Jean-Luc Marion en parle très bien dans Le Visible et le Révélé. J'indique aux auditeurs cette très belle page qu'il consacre à Rothko dans Le Visible et le Révélé, page 158, où Marion dit qu'un tableau, il faut toujours aller le voir, donc le revoir. Il ne faut que le voir, sans aucune autre intuition exceptionnelle que celle de simplement voir, mais vraiment. Simplement, vraiment, c'est peut-être de cette simplicité dont nous avons le plus grand désir au fond de nous, mais un désir que nous ne laissons pas émerger. Quand le voir devient une percée à la manière écartienne, alors il n'est plus un acte de prise, mais de déprise. Et c'est là tout le paradoxe qui est celui de la mystique Descartes et que l'on retrouve dans la manière dont Rothko entend la peinture. Il ne se voulait d'aucun mouvement, Rothko. Il ne voulait pas qu'on le classe dans l'expressionnisme abstrait. Il disait que c'était réducteur. Et pourquoi ? Parce que précisément son travail, c'est un travail qui n'est pas une appropriation, mais qui est un Gottlieden, dirait Eckhart dans sa langue allemande du XIVe siècle, c'est-à-dire, au fond, un laisser-être, une lumière incréée en soi, pour laisser à la toile l'empreinte incréée. L'empreinte incréée, c'est la lumière dont Gabriel parlait.
Voilà. Donc Grégoire parlait.
Grégoire, pardon. Mais c'est...
Ça aurait pu être l'ange Gabriel aussi,
oui.
Peut-être.
Pardon, Grégoire.
C'est pas grave, j'ai un fils qui s'appelle Gabriel.
Oui, il est là, donc. Oui, Rothko disait, hein, il est cité dans l'exposition, « Je crois qu'il n'a jamais été question pour moi d'être abstrait ou figuratif. Il s'agit en réalité de rompre le silence et la solitude, ou bien de respirer et de tendre à nouveau les bras. » Cette phrase est tout à fait sublime. Alors moi, elle fait vraiment écho au tableau de la famille qu'il peint en 1934, qui est exposé, un des premiers tableaux où on voit un père penché sur sa fille avec sa mère tout à côté. Hein. C'est une phrase aussi qui nous renvoie aussi à une très grande simplicité, un esprit d'enfance aussi, et qui rappelle la question vitale de la peinture pour Rothko. Cette question vitale pour l'artiste lui-même, pour ce qu'il peint et pour ce qu'il choisit de peindre, c'est-à-dire le drame de l'existence. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Puisque vous avez évoqué ce souvenir de l'exposition à la Tate et de cette écriture tronquée dans le noir, et pour comprendre bien que le dernier Rothko, c'est aussi un peintre de la lumière, hein, fondé justement sur la tragédie de l'histoire, cette tragédie de l'histoire qui commence par les pogroms en Russie, les premiers pogroms de 1882, de 1903, de 1906. Il quitte la Russie en 1913. Il arrive dans l'Oregon, puis New York. Il va être confronté à cette violence de l'exil.
Quand il arrive sur la côte Est, on lui met une pancarte autour du cou où il y a écrit « I don't speak English ». Et ça, il se ressentira peut-être toute sa vie, cette errance, parce que je crois que ça a été bien que sa vie, c'est une errance dans un labyrinthe, mais qu'on avance point par point. Je crois que c'est une phrase qui revient très souvent sous sa plume. Il a écrit un peu, mais ses écrits sont posthumes, sont parus. Et donc, vraiment, c'est bien de parler de cette humiliation, hein, certainement. Pour revenir à son rapport avec les écoles, on le classe souvent dans l'école de New York, l'abstractionnisme abstrait. Alors, c'est vrai qu'il est proche des grands acteurs, de Motherwell, de Gottlieb. Newman, avec qui les rapports vont s'étioler. Il y a un très bon article de Daniel Arras, paru en 1998 dans Art Press, que j'invite vraiment. En plus, il est pas très difficile à lire. Donc Daniel Arras, grand spécialiste de la peinture Renaissance. Comme il y avait une rétrospective, il a écrit un article dans cette revue Art Press qu'il intitule « La solitude de Rothko ». Alors, je ne peux pas résumer l'article, mais à un moment donné, il parle du « non-moi », « non » trait du « non-moi » de Rothko. Et ça, c'est très, très fort. C'est-à-dire que par rapport aux expressionnistes abstraits qui fondent leur esthétique sur leurs gestes, sur la spécificité de leurs gestes, donc l'expressionnisme, c'est le sujet, d'abord. Or, Rothko, c'est le contraire. Il parle de non-moi. Et ça, pour, je suppose que Isabelle, chère collègue de peinture d'icônes, on a la même expérience. Dans la peinture d'icônes, en principe, le peintre ne doit pas signer, parce qu'il ne doit pas se mettre entre la personne représentée, personne divine, et la personne qui va prier devant l'icône. Parce que l'icône, son premier but est la prière. Donc, si le peintre fait écran, eh bien, il rate son icône. Bien sûr qu'il va intervenir avec tout son talent, toute son énergie, tout son don artistique s'il en a, enfin faire l'effort en tout cas, mais surtout ne pas se faire écran. C'est la même chose dans la célébration, parce que l'icône est complètement liturgique. Si le célébrant qui dit des paroles très importantes, on l'a mis devant pour qu'il dise les paroles, parce que tout le monde ne peut pas tout dire, il doit être transparent. On ne doit pas s'arrêter à la personnalité de l'officiant. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de déviance. Je n'insiste pas.
Merci infiniment. C'est peut-être l'occasion de distinguer très rapidement, pour les élèves qui nous écouteraient, sait-on jamais, une idole d'une icône, Isabelle.
Oui.
Vous le faites dans l'introduction de votre livre, à partir de l'analyse de Platon dans La République, mais c'est important de revenir aux fondamentaux.
Oui, c'est important de revenir aux fondamentaux et ça rejoint complètement ce que Grégoire nous dit quand il fait allusion à cet article de Daniel Arras, « Non, moi ». Et « Non, moi », ce n'est pas un anéantissement pur et simple du sujet qui ne serait pas là, bien sûr, mais c'est ce que j'appelle dans le livre un écart. Une décoïncidence, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de laisser place, faire place, c'est le titre d'un recueil de Jean-Pierre Lemaire que nous avons invité il y a quelques mois ici, et il s'agit bien de cela en fait. Quand on peint une icône, il y a tout un processus de désappartenance qui s'opère, et c'est l'œuvre de l'esprit. De l'Esprit Saint, au fond, laisser ce souffle de l'Esprit inhabiter en nous. C'est-à-dire nous venir, en quelque sorte, guider un geste, une inspiration. À partir de là, le non-moi résonne comme ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et ce Christ qui vit en nous, c'est son esprit qu'il nous a laissé. Et dès lors que le peintre se met de côté pour laisser être cette image de l'invisible, il y va au fond de l'icône et non de l'idole. L'idole, contrairement à l'icône, c'est ce que je veux m'approprier, qui est mien. Et donc, c'est de l'ordre d'un rapport entre le sujet et l'objet, d'un rapport qui est une prise et donc une appropriation. L'idole est ce qui fascine. Dans l'un des psaumes, alors j'ai oublié le numéro exact, il me semble que c'est le 135e, il est dit que les idoles ont des bouches et ne parlent pas, qu'elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas. Tout à l'heure, je parlais du rapport charnel de Rothko à la lumière. Eh bien, on peut dire que l'icône est incarnée, d'une incarnation spirituelle. L'idole est désincarnée. Elle devient une chose, un objet, un gris-gris ou une sorte de d'objet de consommation. Je pense que le mot consommation est tout à fait intéressant à mettre en parallèle avec ce que liturgiquement nous vivons dans l'Eucharistie. Et vous avez rappelé, Grégoire, que l'icône est liturgique, oui. Et je dirais que laisser place, c'est exactement ce qu'on fait à chaque adoration eucharistique.
Oui, et j'aimerais peut-être qu'on s'attarde un petit peu sur cette question de la consommation et vraiment du refus absolu de Rothko d'entrer dans ce système. Vous allez nous parler peut-être des Seagram Murals.
Et j'aimerais, puisqu'on parle beaucoup de christianisme, rappeler que Rothko a fait ses études dans une école talmudique.
Oui.
Il n'est pas anti-chrétien. Mais justement, Arras le rappelle et dit que ces tableaux de... Il y a une dimension très importante dans les tableaux de Rothko qu'Arras met en parallèle avec la tradition juive, c'est l'attente. Ça, c'est très important. À méditer. Je ne veux pas forcément développer, peut-être que vous voulez, Isabelle, mais...
Je préfère vous laisser parler.
Mais c'est assez important de rappeler ça, pour ne pas s'approprier. Oui. On ne peut pas dire que Rothko est un mystique. au sens...
Et d'ailleurs, il le refusait lui-même. Oui, oui, il préférait se dire prophète, hein, prophète qui parlait du...
En fait, on revient à la tradition juive.
Oui, et bien sûr. Mais c'est important, effectivement, parce que c'est très audacieux d'envisager la mystique de Rothko, la nuit mystique. Et on peut tout à fait... On peut voir aussi qu'il a peint Gethsemane, qu'il a peint aussi des scènes chrétiennes. Mais vous avez raison, et l'attente messianique est essentielle. Et certainement, si on repart de l'intention du spectateur, je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir un Rothko par hasard, on y va parce qu'on attend quelque chose, on attend quelqu'un, on attend une rencontre, donc on a une demande très précise aussi. Rothko le disait lui-même, qu'on pouvait trouver dans sa peinture une expérience profane ou une expérience religieuse, et il n'y avait pas de contre-indication ni même d'interdit. Et c'est vrai que peut-être on pourrait revenir sur bien sûr cette origine dans la culture juive, même si il ne se réclame d'aucune authenticité religieuse. Pas une apologie de foi non plus, mais revenir précisément sur le sens de cette inscription culturelle pour montrer précisément qu'elle permet l'universalité d'un dialogue avec toutes les confessions, un dialogue qui va s'ancrer du reste dans les derniers temps de son existence consacrée au travail pour la chapelle de Houston, de laquelle nous pourrions parler, donc qui n'est évidemment pas représentée lors de l'exposition, sinon dans une petite salle absolument intime, près des ascenseurs, moi que je trouve absolument merveilleuse aussi, qui est signe de modestie d'un artiste, qui rappelle l'exigence d'avoir un lieu... un espace consacré à la contemplation pour le vagabond, dit-il, pour le voyageur et le vagabond. Et je crois, Grégoire, que vous aviez très envie de parler des voyages de Rothko. Alors, on oublie la question de la consommation parce qu'on sait que Rothko était un grand critique
On peut juste rappeler que, donc en 1958, on lui avait commandé... donc c'est les distilleries Seagram lui commandent une série de tableaux pour accrocher au mur d'un restaurant du fameux immeuble Seagram construit par Miss Van der Rohe. Et il fait les tableaux, il est très excité par l'idée de décorer, le mot est absolument impropre, mais d'accrocher ces toiles, de réaliser des toiles pour un grand espace. Et le jour où il va manger dans ce restaurant, il pensait que c'était un restaurant d'entreprise. Le jour où il va manger dans ce restaurant, il s'aperçoit que c'est un restaurant luxueux de Park Avenue. Il dit, mais c'est pas possible. Mes tableaux, ce n'est pas la place pour mes tableaux. Et il déchire le chèque, enfin il renvoie le chèque et il résilie le contrat. Voilà, là on a parlé de la consommation. Et donc pour parler un peu des voyages, alors il est allé une première fois... avec sa première épouse en France et en Europe. Et il va visiter l'Italie, évidemment. Et dans la biographie du catalogue de l'exposition de la Fondation Louis Vuitton, on insiste sur le fait qu'à Florence, il va voir le couvent de San Marco et les peintures murales, les fresques de Fra Angelico. Et je suis sûr, là, ça, c'est, je pense que... qu'il a dû être vraiment impressionné par les panneaux. Il y a un couloir dans ce couvent où Fra Angelico a représenté des rectangles qui imitent le marbre. C'est complètement non figuratif. Alors là, il faut renvoyer à l'ouvrage de Georges Didier Huberman sur Fra Angelico, qui explique que ce marbre, où il y a des veines qui ne se mélangent pas, Fra Angelico... Didier Huberman interprète ça dans la perspective de la théologie, et San Marco, c'est le centre de la théologie à cette époque, c'est la bibliothèque la plus riche de théologie, ce sont des dominicains, donc des grands penseurs. Et donc, Fra Angelico vit dans ce contexte de théologien. Et Didier Huberman parle de dissemblance en se fondant sur quelqu'un qui a beaucoup influencé Maître Eckhart, à savoir un père de l'Église dont on ne connaît pas le nom, mais qu'on appelle le pseudo-Denis l'Aréopagite, qui parle donc de ressemblance et dissemblance. Et en fait, l'idée de Didier Huberman, c'est de dire que ces veines de marbre qui ne se mélangent pas sont une façon d'exprimer le mystère de l'incarnation dans laquelle, dans la personne du Fils de Jésus-Christ, Fils de Dieu, incarné, il y a la divinité et l'humanité. Ces grands débats qui, depuis le 5e siècle, ont agité l'Église, mais qui sont très très importants, hein, de savoir, bien, le Christ est une personne, mais il a deux natures, complètement humain et complètement divin à la fois. Enfin, divin, il faudrait le dire de façon chronologique, puisqu'il est divin avant d'être incarné. Donc voilà, c'est des dimensions très importantes. Un autre voyage qui en Italie, alors une décennie plus tard, il va visiter Pompéi. Et là, il est très impressionné par les grands panneaux, enfin les grandes fresques à fond rouge des maisons pompéiennes. Et également, il va visiter le temple de Paestum, qui est un des plus beaux temples grecs, puisqu'il est dans la nature, c'est magnifique. Et devant ce temple, il le raconte dans un de ses textes, qu'un enfant lui dit « Mais qu'est-ce que tu peins, toi ? C'est quoi ta peinture ?» Parce qu'il dit « Je suis peintre. »« Ah, mais c'est quoi ?» Il dit « C'est ça. » Il montre le temple et en fait, il a compris que quand il a vu l'expérience de ce temple, il a compris que c'est ce qu'il fait, c'est exactement l'équivalent de ce qu'il a fait toute sa vie. D'ailleurs, rappelons aussi, enfin, Daniel Arras, cet homme de culture, rappelle l'étymologie du mot « contempler ». Peut-être Isabelle pourrait nous le dire. C'est, dans le mot « contempler », il y a « templum », le temple. C'est l'expérience de, alors là je cite Arras, de l'augure romain, hein, c'est devin romain, devant le temple, dans lequel il y a la présence du divin.
Merci infiniment, Grégoire. Alors, pour effectuer une transition vers ce qui va être la fin de l'émission, parce que rendez-vous compte, comme le temps passe vite avec vous, nous allons écouter une musique d'un compositeur américain, Eric Whitehack, qui s'intitule « Lux Aurumque », qui est un chant de Noël qui a été composé en l'an 2000, et nous écouterons à la suite de cette musique un poème de Guy Vic, extrait de son recueil Parois, paru en 1970, date du suicide de Rothko aussi. Merci, Julien.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Thank you.
paroi. Nous ferons de la terre une cathédrale sans mur. Les grandes orgues déjà jouent la marée. Les couleurs des vitraux s'annoncent dans le jour. Les blés sous la lumière concrétisent l'espace. Sur le corps des amants, l'ombre n'est pas la mort. Les dimensions du monde seront dans nos instants. Chacun de nous officiera. Voici, chers auditeurs d'Alig FM, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Le dernier temps de notre émission qui portera sur la chapelle de Houston, le petit château fort de l'âme de Maître Eckhart dont va nous parler Isabelle. Ce temps de l'émission consacré au champ de lumière que nous offre Rothko à la Fondation Vuitton, qui fait écho à cette sorte de cathédrale que l'on trouve dans l'antépénultième salle de l'exposition, avec tous ces tableaux des années 60 à 64, avec des couleurs primaires qui rivalisent tout à fait avec la Sainte-Chapelle ou les plus grandes cathédrales gothiques françaises. Nous ferons une cathédrale sans mur. Isabelle, on vous écoute sur le petit château fort de l'âme et Grégoire, vous terminerez par nous expliquer le sens peut-être architectural de la chapelle de Houston.
Merci Christine. Petit château fort, cathédrale, on ne semble pas à la même échelle, et pourtant. Ce petit château fort de l'âme est une métaphore que Maître Eckhart emploie pour dire l'ineffable, non pas l'indicible, mais l'ineffable, c'est-à-dire ce qui transcende la parole et la permet. Pourquoi ? Parce que c'est bien dans ce fond sans fond, cet abîme de l'âme, que le Verbe naît éternellement, chez Maître Eckhart. Si j'avais à le signifier avec une autre métaphore, il s'agirait pour moi d'une matrice spirituelle, car Maître Eckhart est un grand lecteur, sinon le plus génial de l'histoire du christianisme, de l'évangile de Jean, ce quatrième évangile synoptique où Jean nous appelle à devenir féconds. Notre vocation d'homme est la fécondité. Une fécondité en esprit et en vérité. Une fécondité qui appelle l'homme à se laisser aimer et à aimer. À ne plus faire la guerre, à ne plus haïr son prochain. C'est difficile de prononcer ces mots aujourd'hui où tant d'hommes et de femmes meurent, je le répète. Je ne veux pas que cette émission soit déconnectée de cette réalité, de l'actualité, qui pour moi est totalement tragique. Et je crois que s'il y avait quelque chose à dire aujourd'hui aux hommes, c'est ce que Grégoire a rappelé, contemplé. Ne vous laissez pas happer par les idoles du monde contemporain. Osez le silence de la contemplation. Osez vous défaire de votre portable. Vous l'avez recommandé, Christine, en allant voir l'exposition à la Fondation Vuitton. Laissez votre portable. Ne faites pas de photos. Photographiez avec votre âme. Mais je crois que c'est justement dans cette matrice de l'âme, ce petit château fort où le Verbe de Dieu naît éternellement, que nous avons le silence le plus épuré. Or, aucune parole, aucune rencontre ne peut naître sans le silence. Dans le bruit, il n'y a pas de rencontre. Dans le trop, il n'y a personne. Il n'y a que ces choses qui nous envahissent et qui nous dispersent. L'unité d'une rencontre, la singularité de l'être, se conjugue dans ce que nous pourrions appeler, avec Rothko, l'espace du vide. C'est très intéressant cette manière dont, dès 1940, chez Rothko, les formes émergent d'abord en tant qu'aventure inconnue, dans un espace inconnu. Et c'est pour ça que Marc Rothko insiste sur le combat des oppositions catégorielles entre abstraction, représentation, et qu'il investit l'art d'une force transcendante, précisément parce qu'il peint depuis ce petit château fort. Et c'est pour ça que pour moi, il ne s'agissait pas de faire du religieux avec Rothko, parce qu'il le refusait lui-même, mais de faire une cathédrale sans mur, c'est-à-dire aujourd'hui un religieux qui n'est plus un terrain d'appartenance, comme on le voit avec les communautarismes aujourd'hui. Quel qu'il soit, je ne désigne personne. Mais il s'agit d'une posture face à Dieu. Nous ne pouvons pas nous approprier Dieu comme une idole. Dieu n'est pas une idole. Et ça, c'est très important à rappeler à nos contemporains, quoi. Nul n'a la vérité. Nul n'est propriétaire de Dieu. On ne met pas la main sur Dieu, comme on ne met pas la main sur un tableau de Rothko. Quelque chose nous échappe. Et si l'homme n'accepte pas de se laisser appeler, il ne pourra jamais répondre de sa responsabilité humaine. Si l'homme n'accepte pas ce silence, il ne sera que dans le bavardage. Si l'homme n'accepte pas cette déprise du regard qui écoute, il ne verra rien que une multitude d'idoles, une multitude d'images, et sûrement pas un Rothko. Je voulais dire ce parallèle atemporel entre le XIVe siècle et le XXe siècle, entre un mystique, prêcheur, dominicain, théologien, philosophe, un peintre, de tradition juive. Tout cela, au fond, ce ne sont que des formes. Et Rothko a voulu aller au-delà des formes, comme Maître Eckhart. Il a voulu quitter le latin pour parler la langue des hommes et des femmes, ses contemporains, le Moyen-Âge allemand. Il a osé ces gestes de rupture, ces changements de paradigme, et Rothko les a osés aussi dans ce grand désir de percer, qui n'est pas un désir venant de nous, qui nous traverse, si nous voulons bien nous laisser traverser. Il y a un consentement qui doit se faire ici. L'homme doit consentir à se laisser désarmer aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais dire. Terminer avec ce verbe « désarmer ».
Merci infiniment, Isabelle. J'aurais voulu laisser les deux mots de la fin à Grégoire. Vraiment deux mots, puisqu'il nous reste deux minutes. Peut-être ai-je le temps tout de même avant tout, puisque Rothko disait de sa peinture qu'elle devait être aussi une expérience qui rivalise avec la poésie et la musique. Chers auditeurs, invitons-nous à un concert ce soir de la Manufacture Vocale, une chorale amateur qui joue son premier concert de reprise à l'église Saint-Martin-des-Champs sur un thème consacré à l'Afrique en Amérique. Regardez. Église Saint-Martin-des-Champs, le concert commence à 20h30. C'est une magnifique chorale amateur qui chante à Paris depuis bien des années, qui d'ailleurs a chanté Rick Whitehacker il y a quelques années, le magnifique Lux Aurumque dans un temple protestant, je ne sais plus très bien.
Les billettes peut-être ? Le temple des billettes.
Oui, je ne sais plus. En tout cas, il chante ce soir et il ne faut pas les rater. Deux mots de la fin.
Oui, alors au lieu de parler de la chapelle, je veux juste rappeler, puisqu'on a parlé de... que Rothko voulait peindre les idées. Et pour ça, il a écrit, il faut se débarrasser de la mémoire, de l'histoire et de la géométrie. C'est un résumé de tout... Comment se débarrasser des concepts ? Parce que, et c'est la même chose, je pense, en théologie.
Si on veut de l'expérience sensible, il faut commencer par se débarrasser de tout ça. Oui.
Pour arriver aux idées, parce que c'est ça, si on veut le thème pour Rothko, le thème de sa peinture, ce sont les idées.
Merci infiniment, Grégoire Aslanov. Merci, Isabelle Raviolo.
Merci Christine.
La prochaine émission de dialogue sera consacrée le samedi 4 novembre à une émission de philosophie et d'épistémologie, puisque nous recevrons Olivier Raymond pour son dernier livre « Quand les montagnes dansent ». Et nous vous souhaitons de belles vacances si vous en avez, chers auditeurs, et pour les autres, une belle exposition Rothko, une belle expérience Rothko. Merci à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.